Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran. Le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour quelques instants et méditons ensemble sur les versets 1 à 7 de la Sainte Sourate Ma'oun. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون
Vois-tu qui traite de mensonge la rétribution? Or, c'est celui qui repousse l'orphelin et qui n'incite point à nourrir le pauvre. Malheur donc aux célébrateurs d'office qui sont négligents dans leur office, ceux-là qui font ostension et jettent l'interdit sur la chose d'utilité courante.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Nous sommes le samedi 20 Azar, 1400 du calendrier iranien, 11 décembre 2021. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre bulletin d'information, ensuite un commentaire politique. L'Iran condamne les mesures inhumaines et illégales des États-Unis contre le peuple iranien. Les négociations de Vienne pourront aboutir à un bon accord en cas de la levée des sanctions américaines, a déclaré le président iranien. L'Iran suit la voie du dialogue sur la base de ses propres positions et propositions. Et la Chambre des représentants des États-Unis adopte une loi visant les drones iraniens. C'étaient les principaux titres de l'actualité. Voici le journal. Le président iranien a déclaré que les négociations en cours à Vienne avec les autres signataires du plan global d'action conjoint aboutiraient à un bon accord si les autres parties étaient déterminées à lever les sanctions américaines contre Téhéran. Ebrahim Raisi a affirmé que Téhéran recherche définitivement un tel accord. Il s'adressait aux ambassadeurs iraniens et au chef des missions diplomatiques de l'Iran à l'étranger. Le président Raisi a également critiqué certains pays de la région pour avoir normalisé leurs relations avec le régime israélien, affirmant qu'une telle décision ne leur profiterait ni à eux ni à Tel Aviv. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, était également présent à la réunion. Il a souligné l'importance de supprimer les sanctions américaines contre l'Iran et a noté que son ministère avait le devoir de le faire. Il a par ailleurs fait remarquer qu'un élément central de la politique étrangère de Téhéran devrait être le renforcement des relations avec les pays voisins. Une source proche à l'équipe de négociation iranienne à Vienne, capitale de l'Autriche, a déclaré à Press TV que les discussions en cours sont basées sur les projets de propositions que Téhéran a présentés lors du 7e tour des pourparlers. La source a ajouté que les pourparlers sont basés sur les modifications des projets présentés au 6e tour. La République islamique d'Iran et les autres signataires de l'accord nucléaire de 2015 ont entamé samedi le 3e tour de leur 7e cycle de pourparlers à Vienne. La République islamique d'Iran a souligné à plusieurs reprises que les négociations devraient conduire à une levée vérifiable et concrète de toutes les sanctions à son encontre. Vendredi, le négociateur en chef de l'Iran a rencontré le ministre autrichien des Affaires étrangères. Ali Boredikhani a souligné le sérieux et la bonne volonté de l'Iran dans les pourparlers, affirmant que l'accord nucléaire de 2015 est vivant en raison de la conduite responsable de Téhéran. Boredikhani a insisté sur le fait que des informations malhonnêtes provenant de l'extérieur de la salle des négociations n'auraient aucun impact sur la volonté de la délégation iranienne de parvenir à un accord garantissant les droits et les intérêts de la nation iranienne. Le programme nucléaire de la République islamique d'Iran a fait des progrès significatifs, a déclaré Raphaël Grossi. Le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Raphaël Grossi, a déclaré que le programme nucléaire de la République islamique d'Iran avait fait des progrès significatifs. Raphaël Grossi a fait ce commentaire dans une interview accordée à la chaîne qatari Al Jazeera. Il a précisé que la République islamique d'Iran enrichissait maintenant de l'uranium à un niveau de 60%. Le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique a également ajouté que l'Agence internationale de l'énergie atomique cherchait un accord avec la République islamique d'Iran pour réinstaller des caméras dans une installation nucléaire de l'Iran dans la ville de Karaj, une ville près de la capitale iranienne Téhéran. Raphaël Grossi a affirmé que l'Agence internationale de l'énergie atomique doit disposer d'informations sur l'installation nucléaire de Karaj pour pouvoir présenter un rapport aux parties engagées dans les négociations lors des pourparlers de Vienne, capitale de l'Autriche. En juillet dernier, l'installation a été touchée par un acte de sabotage qui a causé des dégâts matériels. La République islamique d'Iran a imputé l'attaque au régime israélien et a demandé à l'Agence internationale de l'énergie atomique de condamner cet acte. La République islamique d'Iran a répété à maintes reprises que son programme nucléaire avait des objectifs pacifiques et qu'il poursuivrait sa coopération avec l'Agence internationale de l'énergie atomique. Et enfin, une commission de la Chambre des représentants des États-Unis cible le programme de défense de l'Iran en adoptant une loi visant à contrer la capacité des drones de l'Iran. Le président de la Commission des affaires étrangères a déclaré que le projet de loi aborde ce qu'il appelle la menace croissante des drones tueurs de l'Iran. Il a accusé l'Iran et les groupes alliés de mener des attaques de drones contre les forces américaines et leurs alliés au Moyen-Orient. Il prétend que la loi cherche à contrer la production et l'achat de véhicules aériens sans pilote de la République islamique d'Iran. La République islamique d'Iran condamne les mesures inhumaines et illégales des États-Unis contre le peuple iranien. La représentante de l'Iran auprès des Nations Unies à New York, Mme Zahra Ershadi, a dénoncé comme inhumain et illégal ce qu'elle a qualifié de mesures punitive unilatérale des États-Unis contre le peuple iranien. Madame Zahra Ershadi, représentante permanente adjointe de la République islamique d'Iran auprès de l'Organisation des Nations Unies, a fait ses remarques dans un communiqué publié vendredi à New York en soulignant que Washington utilise des mesures punitives unilatérales de manière illégale comme levier politique contre d'autres pays, dont la République islamique d'Iran. La République islamique d'Iran considère ces mesures inhumaines et illégales comme l'un des principaux obstacles qui entravent les efforts internationaux pour fournir une assistance humanitaire, mais aussi comme l'une des principales sources de crise humanitaire dans le monde, a-t-elle déclaré dans un communiqué lu devant la séance plénière de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. Contrairement aux mesures adoptées pour renforcer la coordination en matière des aides humanitaires et des secours en cas de catastrophe, adoptées par l'Organisation des Nations Unies, y compris l'assistance économique spéciale, les sanctions illégales imposées par Washington à la République islamique d'Iran ont gelé les fonds appartenant à l'Iran dans les banques étrangères pour l'achat de vaccins contre le coronavirus, a déclaré la représentante iranienne auprès de l'Organisation des Nations Unies. Madame Zahra Ershadi a souligné que de telles interdictions de la part des États-Unis entravent l'aide humanitaire et créent des crises de santé dans le monde. Nous rejetons fermement l'imposition de ces mesures punitives par un certain nombre d'États en tant que levier politique, en particulier pendant la pandémie de COVID-19. Même à l'époque du coronavirus, les mesures punitives unilatérales, illégales et inhumaines des États-Unis ont ciblé les citoyens innocents iraniens en gelant nos avoirs auprès des banques étrangères. Or, nous voulons nous servir de ces avoirs pour la fourniture des vaccins et d'autres besoins humanitaires, a déclaré Madame Ershadi. La diplomate iranienne a également noté que l'aide humanitaire doit être distribuée à travers le monde de manière équitable et sans aucune ingérence des grandes puissances. Nous condamnons fermement le fait que les affaires humanitaires destinées à soutenir des populations en détresse sont prises en otage comme moyen politique ou outil militaire, notamment en imposant des blocages contre les civils. En outre, les Nations Unies doivent veiller à ce que toutes les aides humanitaires soient distribuées à toutes les populations dans le besoin, sans discrimination et sans aucune ingérence des grandes puissances, a ajouté la représentante de la République islamique d'Iran auprès des Nations Unies. Depuis avril, Vienne accueille des négociations sur une relance de l'accord nucléaire, le plan global d'action conjoint signé en 2015. Ces négociations ont pour but de faire lever les sanctions anti-iraniennes que Washington a réimposées à la République islamique d'Iran après le retrait unilatéral et illégal des États-Unis sous la présidence de Donald Trump. Près de 11 mois après la prise de pouvoir aux États-Unis par le président démocrate Joe Biden, les États-Unis refusent toujours de lever les sanctions malgré les promesses de Biden d'annuler les sanctions illégales de son prédécesseur à l'encontre des Iraniens et de mettre fin à sa campagne ratée de pression maximale contre la République islamique d'Iran.
Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition du débat. Une agression israélienne au missile a visé des conteneurs au port de Latakia dans l'ouest de la Syrie dans la nuit de lundi à mardi 7 décembre. C'est la première fois depuis le début du conflit en Syrie en 2011 qu'Israël cible en effet le principal port commercial de la Syrie. Et cette attaque survient dans un contexte de recrudescence des frappes israéliennes contre la Syrie au cours des dernières semaines. Toutefois, cette attaque n'est pas moins risquée, d'autant plus que, en effet, la base aérienne de Khmeimim, la base aérienne russe de Khmeimim, mais aussi l'installation navale de la Russie à Tartous, se trouve à proximité de ce port commercial. Aujourd'hui, dans le cadre de cette édition du débat, nous allons nous pencher sur cette aventure, cette attaque risquée de l'entité israélienne contre la Syrie, ses conséquences et bien entendu une probable riposte de l'axe de la résistance mais aussi de la Russie. Restez avec nous jusqu'à la fin de cette émission.
Y a-t-il un quelconque lien entre un avion et L-20 avec près de 20 des meilleurs officiers de renseignement russes à bord qu'un F-16 israélien qui a fait abattre en 2018 par S-200 syrien interposé en s'en servant comme d'un bouclier et ce, dans le strict objectif de bousiller les réseaux de renseignement satellitaires russes au-dessus de la Syrie et partant rendre la tâche plus facile à ses bombardiers d'une part et ses missiles de croisière air-sol qui viennent de frapper le territoire syrien ce 7 décembre. Bien sûr que oui, si on se rappelle que dans l'un comme dans l'autre cas, c'est Latakia, soit la côte ouest syrienne, réputée être le front anti-OTAN de la Russie en Méditerranée, puisqu'abritant deux de ses principales bases extraterritoriales, Khmeimim et Tartous, qui a été ciblée, et que les missiles, air-sol israéliens qui en ont été responsables, bien qu'interceptés et détruits en majorité, par des batteries de Pantsirès, sont parvenus tout de même, pour deux d'entre eux, à percer le puissant bouclier antimissile russe et à s'abattre respectivement à 25 à 85 km de Khmeimim et de Tartous. En 2018, cette culottée tentative israélienne de faire liquider les généraux russes au-dessus de Latakia, zone qui, tout raison gardée, pourrait être la première à être assaillie si jamais l'idée venait aux Otaniens de tenter une opération de débarquement comme celle qu'ils ont tentée sans succès. En été et en pleine Crimée, a valu à Tel Aviv l'apparition choc dans l'arsenal syrien des batteries de missiles S-300 qui, pour n'avoir jamais été activées depuis, continuent néanmoins à inspirer les pires craintes au camp d'en face. Or, ce 7 décembre, le camp d'en face, US-Israël, a franchi non pas un seul, mais une centaine de pas en une fois, en frappant sous prétexte d'avoir à y anéantir les cargaisons maritimes de missiles iraniens, le parc de conteneurs de Latakia, là où arrivent des dizaines, voire des centaines de cargos, de pétroliers, de navires, pour y décharger pétrole, denrées alimentaires et autres produits de base non seulement en provenance de l'Iran, mais aussi depuis la Russie. Après tout, les sionistes russophones sont peut-être bien chers à Moscou, mais pas autant que l'avenir énergétique de la Grande Fédération de la Russie en Méditerranée. Les accords d'Abraham, littéralement ratatinés par l'axe de la résistance dans le golfe Persique, les Émirats, voire l'Arabie, étant de plus en plus enclins à renouer avec l'Iran, il est grand temps que les effets s'en fassent aussi ressentir en Méditerranée orientale, où Israël nourrissait il y a peu, couper le transit du gaz russe vers l'Europe. Ces quelques mots, particulièrement acerbes du ministre des Affaires étrangères syrien Faisal Merdod, à Téhéran, où il a affirmé qu'une réponse par avion ne tarderait pas à être donnée aux raids aériens d'Israël, ne devraient pas être prises à la légère, l'armée russe ayant commencé dès le 17 novembre à apprendre aux pilotes syriens comment se battre contre les F-16 israéliens une fois au volant des MiG-29. Et ces MiG-29 décolleront de Latakia.
Je vais tout de suite vous présenter nos invités pour cette émission. Nous sommes en ligne depuis Paris avec Philippe Hugon, journaliste et reporter de guerre, et depuis Toulouse avec M. le professeur Pierre Dortiguier, philosophe et politologue français. Monsieur le professeur, bonjour et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour Monsieur Canavan, à tous vos auditeurs.
Monsieur le professeur, je l'ai dit en début d'émission, c'est la première fois depuis 2011 qu'Israël, en effet, a pris ce risque de lancer une attaque contre le principal port commercial de la Syrie, non loin des bases aériennes et navales russes. Pourquoi cette aventure risquée?
À notre avis, c'est parce qu'Israël cherche à engager les Américains à ses côtés, c'est-à-dire à paralyser toute initiative américaine, par exemple, je répète, qui pourrait et qui jugerait être peu conforme ou non conforme à ses intérêts. Ceci est vraisemblable, en effet, parce que nous avons quand même des, disons, soit directement, soit indirectement, autour des conversations de Vienne, par exemple, et autour, disons, de la reprise des négociations de Vienne, constater qu'il y a une attitude, disons, un pas en avant, un pas en arrière des Américains, il y a quand même, disons, une présence. Or, ceci gêne les Israéliens, et ils savent qu'ils peuvent réagir contre n'importe quelle attitude. Ils ont une certaine autonomie, car ils savent qu'ils sont défendus, qu'ils auront toujours, que ce soit en Europe, chez nous, ou que ce soit en Occident, disons, c'est-à-dire dans le domaine de l'OTAN, ou aux États-Unis même, qu'ils auront toujours des soutiens. Donc, ils se livrent à une provocation qui est très risquée. Vous l'avez souligné, c'est la première fois que l'attaquer, au vu des amis d'ailleurs depuis longtemps, des amis tunisiens et syriens, que l'attaquer a été visée. Je crois que Israël peut le faire en toute impunité, car il sait qu'il ne sera pas condamné, voyez-vous. Donc, c'est quand même un sauf-conduit. Je donnerai comme exemple, permettez-moi de revenir sur de voir ça du point de vue de la scène française. Je vois une candidate qui se présente aux élections, quand elle a pu dire que c'était une femme qui se présentait, elle a trouvé comme premier exemple dans l'histoire Madame Golda Meir, voyez-vous. Donc ça signifie que, disons, Israël fait partie, disons, de l'OTAN, fait partie de l'Europe. Ce n'est pas du tout un paradoxe de la défense européenne. Comme, et naturellement, il sait aussi qu'il peut avoir, avec une certaine effronterie, engager la Russie dans une riposte. Car n'oublions pas qu'Israël était parrainé, j'ai eu l'occasion de le dire chez vous, parrainé par, comme un serpent à deux têtes, par la Russie et les États-Unis. Et donc, il sait qu'il a des appuis en Russie même, ce ne sont pas des appuis de la même importance, de la même nature, mais il sait qu'il a. Il sait qu'il peut, disons, qu'il est toléré, voyez-vous. Alors nous attendons bien sûr la riposte russe, mais ce qui est visé par Israël, c'est la Russie que, je répète, les États-Unis. C'est-à-dire, c'est une pression exercée contre celui que l'on présente comme le patron d'Israël, de l'État d'Israël, je veux dire. Et en réalité, c'est un patron vraiment, on peut dire, très soumis.
Merci infiniment pour ces précisions. Restez avec nous, monsieur le professeur. On va tout de suite rejoindre à Paris Philippe Hugon, journaliste et reporter de guerre. Monsieur Hugon, bonjour. Merci d'être en ligne avec nous.
Oui, bonjour à toute l'équipe et à Pierre Dortiguier, bien sûr.
Monsieur Hugon, et vous, dans quel contexte replacez-vous cette provocation anti-russe d'Israël? Une première, en effet, depuis le début de la guerre en 2011. Est-ce que là, il s'agit d'impliquer, comme disait M. Dortiguier, les États-Unis, alors, dans une confrontation directe contre la Russie et l'axe de la résistance? Est-ce que là, il s'agit d'une politique de fuite en avant, d'autant plus que on va y revenir justement dans cette guerre des ponts et des pétroliers, bien sûr, c'est Israël qui est perdu?
Alors, moi je dirais qu'Israël mène une politique extrêmement aventureuse dans la région et cherche bien sûr à impliquer les Américains. Vous savez, Israël n'existe uniquement parce que les Américains sont là pour les protéger. Alors, c'est une fausse protection, puisque les États-Unis sont bien sûr en faillite financière et qu'ils perdent chaque année un peu plus d'influence. Donc, Israël le sait, son temps est compté maintenant. Israël va disparaître dans quelques années, je dirais peut-être quelques dizaines d'années, dans 20 ans ou 30 ans, mais Israël, sous cette forme, va disparaître. Vous savez, Israël, c'est l'histoire d'un destin raté. C'est l'histoire d'un pays qui aurait dû devenir un phare au Moyen-Orient, en rassemblant un grand nombre de religions et de cultures, et permettre à toute cette région de rayonner à travers le monde. Et Israël a choisi la voie de la répression et du terrorisme, parce que c'est du terrorisme intellectuel, puisqu'on voit d'ailleurs aucun pays en Europe et également au Canada, aux États-Unis, on ne voit personne qui a condamné cet acte de terrorisme, parce que moi j'appelle ça un véritable acte de terrorisme, d'aller attaquer un pays qui ne les a pas attaqués. Alors quelles en sont les raisons? Il y a bien sûr des raisons économiques, hein, puisque vous savez qu'il y a de très grandes réserves de gaz et de pétrole au large de l'attaquer justement. Mais je trouve que c'est une politique dangereuse, aventureuse, de la part du monde occidental qui cautionne l'attaque d'Israël sur la Syrie. Moi qui me suis rendu de nombreuses fois en Syrie, j'ai pu voir parmi le peuple syrien aucune animosité particulière envers les Israéliens. Alors aujourd'hui, cette politique menée par Israël amène encore un peu plus de colère, un peu plus de haine, un peu plus de ressentiment envers Israël. Et Israël va le payer au prix fort, un prix extrêmement fort dans les 20 ans qui viennent. Et cette politique menée par les dirigeants israéliens est une politique suicidaire qui va au détriment du bien-être du peuple israélien.
Merci pour ces éclairages, M. Hugon. Restez avec nous. Monsieur d'Ortiguier, après la bataille des pétroliers, où justement Israël a perdu face à la République islamique d'Iran, selon de nombreux analystes, Israël a plus de problèmes, de difficultés à protéger ses intérêts en mer. Selon de nombreux analystes, aujourd'hui, alors vient de commencer la bataille des ponts. Avec justement cette attaque risquée, cette politique aventureuse et dangereuse en Méditerranée contre le port de Latakia. Reste à savoir, tout en sachant que justement dans cette nouvelle bataille des ponts, c'est Israël qui va perdre. Est-ce que simultanément au pourparlers de Vienne, l'objectif serait de perturber le cours des événements et le cours des négociations nucléaires à Vienne dans le but de parvenir à un accord, ou bien Israël, en effet, a lancé, comme d'ailleurs il le prétend, d'empêcher la Syrie de devenir, selon les observateurs, la tête de pont des forces de la République islamique d'Iran face à l'entité d'agression israélienne.
Oui, on peut dire que c'est les deux solutions que vous proposez sont logiquement compatibles. C'est-à-dire qu'il y a bien sûr le souci de faire monter la tension, et par là même en visant l'Iran, puisque c'était l'argument politique employé par les Israéliens pour justifier le bombardement du Latakia, et il est certain que ceci est une farce. De troubler les négociations de Vienne. En effet, il y a un deuxième souci de la part d'Israël qui est également soutenu ici, nous l'avons remarqué par notre presse, par les grands médias, c'est-à-dire de mettre en cause le Hezbollah et l'inscrire comme organisation terroriste. Ceci, je crois, est à mon avis qui est poursuivi par Israël. Je ne suis pas sûr qu'il réussisse aux États-Unis, mais il peut le réussir à l'échelle européenne. Ce serait une sorte de concession, si je puis dire, que les Européens feraient à Israël. Il est certain que cette manière d'attaquer le Hezbollah est avant tout une manière indirecte, mais fait forte, d'attaquer l'Iran. Vous voyez, on ne représente pas ici dans la presse le Hezbollah comme une force patriotique, libanaise et syro-libanaise, mais on la représente comme un agent, toujours de ceci ou de cela, agent de l'Iran, agent... Voyez-vous, on ne voit pas tout le combat patriotique, on ne voit que des rapports de force, voyez, parce que toute l'histoire de la Palestine, toute l'histoire de la création de l'entité sioniste est, je vous assure, vraiment beaucoup plus ignorée en Occident aujourd'hui qu'elle ne l'était, par exemple, dans une génération, comme nous avions, par exemple, quarantaine, cinquantaine d'années. Alors ceci, Israël peut tout se permettre, disons, de ce point de vue, et je crois que le fait de vouloir troubler, l'intention de troubler les accords de Vienne est juste. Il s'agit de maintenir les États-Unis, selon, à mon avis, dans un état, disons, d'incertitude. C'est-à-dire, on veut, disons, Israël essaie de paralyser des recherches tout à fait légitimes des États-Unis d'aboutir à des accords avec l'Iran. Et M. Hugon ne me contredira pas, ont besoin de ces accords. Ils en ont besoin sur le plan économique. Comme tous les occidentaux, ils ont besoin, disons, de relations avec une grande puissance, voyez-vous, et d'adhérer non plus à un affrontement avec la Russie. Or, je dois dire que la politique israélienne, d'une façon ou d'une autre, qu'elle soit en Israël même ou qu'elle soit ici, dans les représentations européennes ou autres, parce qu'elles existent, voyez-vous, veut pousser justement à cette confrontation des États-Unis avec la Russie.
Merci encore, monsieur le professeur. Monsieur Hugon, et vous, quel lien alors trouveriez-vous entre la récente attaque de l'entité sioniste contre le port de Latakia et les négociations en cours à Vienne?
Alors, c'est vraiment une position très ambiguë aujourd'hui que prend Israël, puisque, vous savez, le cheval de bataille un petit peu de tout ceci, c'est de dire l'Iran veut mettre la main sur la Syrie, veut mettre la main sur le Liban. Moi, je voudrais dire que l'Iran n'a aucune velléité de conflit avec l'Occident, avec les nations qui l'entourent. L'Iran n'a jamais déclenché de guerre contre ses voisins. Ce qui n'est pas le cas des États-Unis qui ont déclenché des dizaines de conflits à travers le monde. Donc il faut arrêter de montrer l'Iran du doigt comme étant le diable de la région. Au contraire, l'Iran, c'est un pays qui peut justement stabiliser la région. Et ceci, il faudrait que pour cela, les États-Unis et l'Union européenne considère l'Iran comme un élément de stabilisation et comme un partenaire à la fois économique, mais également un partenaire politique, un partenaire diplomatique. Mais tant que nous aurons ces politiques agressives de l'Union européenne et des États-Unis, on arrivera toujours à une situation stérile, une situation qui n'avancera pas. Et on peut le voir d'ailleurs pour les accords de Vienne, hein, comment se fait-il qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, on traîne encore les pieds pour trouver des solutions de paix afin de préserver cette région des conflits? Moi, je pense qu'Israël est aujourd'hui le facteur de déstabilisation. Alors, il est vrai qu'Israël joue sa survie, mais ce n'est pas en déclenchant des conflits et en allant bombarder une région syrienne, et notamment la région de Latakia, qu'on va arranger les choses. Au contraire, Israël est en train de se perdre dans des actions de terrorisme, parce que moi j'estime que l'attaque du port de Latakia, c'est une action de terrorisme. Hein. Alors ça leur allait bien d'ailleurs aux gouvernements occidentaux de critiquer la politique du Hezbollah, mais que fait Israël? Qu'a fait Israël sur le port de Latakia? Donc il faut remettre quand même les choses à leur juste place. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans les médias occidentaux, eh bien, ils ont définitivement pris position pour les États-Unis et pour les dirigeants européens, et ils ne disent plus la vérité. On a 4 chaînes d'information en France, eh bien, c'est 4 chaînes de désinformation. Ils ne font plus de l'information, mais de désinformation. Et aujourd'hui, si vous voulez avoir une véritable information, il faut se tourner vers les médias alternatifs pour voir un petit peu quelle est la situation réelle dans ce monde. Et on voit aujourd'hui que les États-Unis, qui sont dans une situation économique épouvantable, cherchent par tous les moyens à garantir leur approvisionnement pétrolier, cherchent à garantir leur économie, mais c'est un pays en faillite financière. Dans les 5-6 ans qui viennent, nous allons connaître dans le monde occidental un effondrement économique sans précédent. Je ne parle pas d'une petite crise comme 2008, qui n'était même pas une crise, qui était plutôt une contraction des marchés, mais je parle d'une crise qui sera pire que celle de 1929, parce que le monde entier et l'Union européenne sera englobée dans cette crise. Et personnellement, je pense que ça va être une très bonne chose pour la paix dans le monde, car ça remettra un certain nombre de pays occidentaux, bien sûr, à la place qui est la leur.
Merci encore. Une toute dernière question à M. Dortiguier. M. Dortiguier, M. Hugon l'a rappelé d'ailleurs à juste titre, la République islamique d'Iran est une grande puissance régionale, alors un partenaire économique pour les pays occidentaux, et en l'occurrence les pays européens, et bien entendu un facteur de déstabilisation dans la région. Au contraire, l'entité sioniste l'a bien montré au cours des dernières années, des dernières décennies, en effet, toujours à chercher à déstabiliser, en effet, la région par ses attaques de terroristes, en quelque sorte. Ceci étant dit, est-ce que pour les milieux politiques et médiatiques occidentaux, le temps n'est pas venu de revoir leur position, d'ouvrir les yeux sur la réalité, comme disait d'ailleurs M. Hugon.
En effet, c'est ce que d'ailleurs nous cherchons en France, avec peut-être à travers ces élections présidentielles. Nous pensons, vous savez, que la France doit présider l'Union européenne. Et je dois dire que nous espérons que le réalisme en particulier de la France et de l'Allemagne, ira dans ce sens. Quelles que soient les déclarations, du reste, les protestations de soutien qui sont des protestations verbales, voyez-vous, envers l'entité sioniste. Je crois que le réalisme l'emportera. Et d'autant que, comme l'a dit M. Hugon, ce réalisme était évidemment fortifié par la perspective d'un déséquilibre financier international. Vous savez, avec une dette beaucoup plus croissante, etc., qui est inimaginable. Alors je pense qu'il y a aussi des tensions à l'extérieur, en Ukraine et autres, qui nous font évidemment considérer la Russie comme, disons, un concurrent, à défaut d'être un adversaire, concurrent à tout point de vue. Mais il est certain que l'Europe doit dire quoi, les dirigeants européens, de ce point de vue, ne peuvent être que réalistes, voyez-vous. Mais je crois que l'entité sioniste, malheureusement, est comme un enfant gâté qui essaie, disons, de ne pas vivre sur un centre de gravité qui lui soit propre, en résolvant les questions de justice, etc. Avec les... Mais, disons, à cette, comment dirais-je, cette sorte de victime, se croire toujours 30 ans auparavant, non. Les choses ont changé, je ne prononce pas sur le fond historique, bien sûr, mais il faudrait que l'État d'Israël et l'opinion publique, surtout celle qui est un peu de gauche aujourd'hui, qui a remplacé M. Netanyahou, soient réalistes. Et je crois malheureusement que ce sont de grands enfants gâtés, je veux dire, avec des armes, et il est certain que s'il n'y a pas, de la part de ses parrains, je reviens à l'expression tout à fait au début, qu'ont été la Russie et les États-Unis, vraiment une sévérité, un rappel à l'ordre de l'entité sioniste, à ce moment-là, ce sont ces deux grandes puissances elles-mêmes qui seront amenées à s'affronter. Voilà exactement comment se présente, disons, la situation. Et bien sûr, l'Iran, lui, n'a qu'à rester ce qu'il est, c'est-à-dire une puissance en développement technologique. L'Iran n'a pas à se lancer dans des aventures. C'est également non plus ni les États-Unis ni la Russie.
Monsieur le professeur Pierre Dortiguier, philosophe et politologue, Philippe Hugon, journaliste et reporter de guerre, je vous remercie infiniment d'avoir bien voulu apporter ces éclairages à cette émission. Merci beaucoup.
Merci à vous. Bonne journée.
Merci.
Bonne
journée. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Au revoir et à très bientôt.
à toutes et à tous. Bienvenue dans cette émission Focus. S'exprimant à l'occasion d'une rencontre à Téhéran avec le chef de la diplomatie syrienne Faisal Miqdad, le président iranien Ebrahim Raisi a qualifié les relations Téhéran-Damas de stratégiques et a déclaré « Il existe de nombreux potentiels pour augmenter le volume des échanges commerciaux et diversifier le partenariat entre les deux pays. » Dans tous les domaines, les opportunités peuvent être donc multipliées à cet effet, a-t-il souligné. La visite officielle du ministre syrien des Affaires étrangères Faisal Miqdad en Iran a été l'occasion de réaffirmer la volonté commune des deux pays de consolider davantage des relations bilatérales anciennes, solides et stratégiques en diversifiant le partenariat économique en poursuivant la concertation politique sur les questions internationales et régionales, marquée par une convergence de vues, notamment sur la question de la présence illégale des étrangers et des terroristes daéchistes dans la région et sur le sol syrien, qui représentent toutes deux la menace pour la sécurité régionale. Aujourd'hui, une planification à long terme et globale doit être faite pour développer et approfondir les relations entre Téhéran et Damas. Et sur cette base, nous devons prendre des mesures pour garantir les intérêts de nos nations, en particulier dans le secteur économique, a déclaré le président Raisi, faisant référence aux intérêts communs des deux pays sur les questions bilatérales, régionales et internationales. Le président Raisi a estimé que le volume des échanges commerciaux et économiques entre les deux pays était bien inférieur au niveau souhaité et a déclaré « Il existe de nombreuses capacités pour augmenter le volume et le montant des échanges économiques entre les deux pays en activant tous les potentiels existants. Le volume des échanges économiques peut être multiplié par plusieurs », a-t-il souligné encore. Qualifiant de dangereuse pour la sécurité et la stabilité de la région, la présence illégale continue de forces étrangères dans la région et sur le sol syrien, le président Raisi a précisé « Daesh est l'œuvre des Américains. Aujourd'hui, la présence des daéchistes et des États-Unis partout dans la région sera source des dégâts en hommes et en matériel et de l'instabilité menaçant la vie et le calme des nations. » Le ministre syrien des Affaires étrangères, Faisal Miqdad, a pour sa part présenté un message du président syrien Bachar al-Assad à son homologue iranien et a invité le président Raisi à se rendre en Syrie. Avec la résistance du peuple syrien et l'appui du front de la résistance, les plans des États-Unis, du régime sioniste et de leurs alliés dans la région ont échoué et aujourd'hui, ils ont fini par saisir cette réalité que la Syrie n'a pas échoué comme ils le souhaitaient et que Damas restera toujours campé sur ses positions, a ponctué le chef de la diplomatie syrienne. Le porte-parole des forces armées yéménites a affirmé lors d'une conférence de presse que l'armée et Ansar Allah ont mené une opération d'envergure contre des cibles militaires et vitales de l'ennemi saoudien à Riyad, Jeddah, Taïf, Jizan, Najran et Asir. Selon certains rapports médiatiques, les vols vers l'aéroport de Riyad ont été suspendus à l'issue de cette attaque. L'opération a été menée avec plusieurs missiles balistiques et 25 drones, a révélé le général Yahya Sari, et de détailler 6 drones de type Samad 2 et Samad 3 ont ciblé la base aérienne du roi Fahad à Taïf et l'installation pétrolière d'Aramco à Jeddah. 5 autres drones de type Samad 1 et Samad 2 ont visé des sites militaires dans les régions d'Abahar, Dizan
et Assyr. Vidron Kassef 2K et un grand nombre de missiles balistiques se sont abattus sur des sites sensibles et crucieux à Abhadjizan et Najran, a-t-il précisé encore. Il a en outre lancé un appel à tous les citoyens résidant dans les zones ciblées à rester à l'écart des sites militaires devenus dans la ligne de mire des forces armées yéménites. Et le général Sari de conclure, nous ferons face à toute escalade par une escalade militaire et nous menons davantage d'opérations militaires dans le cadre de notre légitime défense en riposte à l'agression et au blocus visant notre peuple. Lors de leur entretien par visioconférence, Vladimir Poutine a appelé Joe Biden, président américain, à ne pas rejeter la responsabilité de l'escalade des tensions autour de l'Ukraine sur Moscou. Le président russe a dit à son homologue américain qu'il était erroné d'imputer à Moscou toute la responsabilité des actuelles tensions autour de l'Ukraine, a annoncé le Kremlin. Vladimir Poutine a ainsi évoqué la ligne destructrice de Kiev visant, selon lui, à démonter les accords de Minsk destinés à régler le conflit dans le sud-est de l'Ukraine qui dure depuis 2014. Dans le même temps, il a accusé l'OTAN de renforcer son potentiel militaire le long des frontières russes et d'étudier la possibilité de s'implanter sur le territoire ukrainien. De ce fait, la Russie est intéressée à obtenir des garanties sûres et juridiquement contraignantes qui excluront l'élargissement de l'OTAN vers l'Est et le déploiement de systèmes d'armes offensifs dans les pays limitrophes de la Russie, a fait savoir le Kremlin. Un sondage d'opinion réalisé par l'Institut d'études pour la sécurité nationale en Israël et publié par le média israélien I24 News a indiqué que la majorité de la société israélienne considère que l'armée israélienne n'a pas gagné la dernière guerre à Gaza qui a eu lieu pendant le mois de mai dernier. Tzipi Israeli, une chercheuse au centre, a constaté qu'une enquête similaire qui avait été menée après la guerre du Liban en 2006 avait donné des résultats identiques. Selon le sondage, le sentiment dominant en Israël est que l'armée israélienne n'est plus en mesure de gagner les batailles au cours des deux dernières décennies et que l'équation du calme et de l'absence de victimes est devenu synonyme de la victoire dans la guerre. Le correspondant de I24 News a rapporté que lors de la conversation avec Israeli, cette dernière a souligné que les guerres de 1967 et 1963 étaient, selon elle, des guerres existentielles, alors que depuis la guerre du Liban, la société israélienne s'est habituée à des rounds pareils où l'équation se résume à maintenir l'accalmie. €300 milliards, c'est le montant du projet européen qui vise à concurrencer la Chine dans le monde. De l'Afrique aux Balkans, passant par l'Asie centrale, Pékin a lancé une vraie guerre économique et Bruxelles ne compte pas se laisser faire. L'Union européenne casse sa tirelire pour faire face à Pékin. La Commission européenne a présenté le 1er décembre un plan global d'investissement basé portail mondial. En français, ce projet vise à débourser plus de €300 milliards de fonds publics et privés d'ici 2027 dans des projets d'infrastructures en dehors de l'Union européenne, dans le les pays voisins des Balkans occidentaux, en Afrique, mais aussi en Amérique du Sud et en Asie. Cette nouvelle stratégie européenne s'inscrit dans le sillage de la réunion du G7 qui s'était tenue en juin dernier. L'Allemagne, le Canada, les États-Unis, la France, l'Italie, le Japon, le Royaume-Uni et l'Union européenne avaient décidé d'investir 100 milliards de dollars par an dans les infrastructures des pays défavorisés en Afrique, en Asie ou encore en Amérique latine pour contrer les routes de la soie chinoise. Eh bien, chers amis, si touche à sa fin cette émission, merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone iranienne. Thank you.